Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Yves et c'est l'heure de l'interview sur RDWOM. Au studio, aujourd'hui, nous recevons 3 personnes autour de écologie au quotidien qui va avoir lieu prochainement du 25 au 28 janvier à Die, et donc avec un titre « Agir pour le vivant ». Pour cela, nous avons autour de la table Estelle Gilliot. Bonjour.
Bonjour.
Estelle, quelle est ton activité au sein de cette organisation ?
Alors, moi, je suis salariée depuis 3 ans, mais j'ai été bénévole pendant 7 ans avant d'être salariée pour les rencontres de l'écologie.
À tes côtés, Michel Léon, bonjour.
Bonjour.
Michel, pareil, votre...
Moi, je suis un nouveau de la bande. Je suis administrateur depuis quelques mois. J'ai participé l'année dernière aux rencontres, donc les 21e, mais comme ça, je dirais pas l'improviste, mais un peu improvisé. Et puis, je suis dans le DIWA depuis 3 ans. Je suis journaliste retraité.
Et pour finir, Claude Verret, figure incontournable d'écologie au quotidien. D'ailleurs, vous en êtes le fondateur.
Fondateur avec d'autres personnes. C'est une coopération à plusieurs. Et puis, oui, c'est le 22e, donc ça fait 23 ans qu'on travaille sur ce sujet et qu'on a pris les problèmes d'environnement à bras-le-corps.
Alors, pour cette émission, on va aborder la programmation dense de ces 5 journées. Et pour cela, il y a cette affiche avec « Agir pour le vivant » et il y a cette succession de noms, Die, Biovallée, Drôme. Alors, on peut peut-être établir aussi pour vous l'importance de ces situations, de ces localités.
Ça semble une évidence pour nous. Hein. D'abord parce qu'on est dans un bassin versant qui prend sa source à la Bâtie des Fonds et qui va aller se jeter dans le Rhône à Livon-l'Auriol. Et il est évident que ce territoire, on ne peut que le penser dans sa complétitude et aussi dans sa diversité. Si je schématiserais, mais si vous jetez des ordures à la Bâtie des Fonds, vous allez les retrouver à Livon-l'Auriol. Alors si on veut travailler par exemple sur la rivière, éminemment, il faut travailler sur toute cette distance, cette longueur, donc d'où Biovallée. La Drôme, c'est un tiers, Biovallée, c'est un tiers du département de la Drôme, donc ça impacte beaucoup, voire même ça impacte plus que ce que je l'ai dit, puisqu'on a aussi des versants du Diois qui vont sur l'Ouvèze. Ou sur le Buèche. Donc, c'est vraiment, ça impacte totalement la Drôme. Et dit au pied du Glandas, c'est un peu la perle du territoire. C'est la perle de la Drôme, comme si vous ouvriez une huître avec le Glandas en arrière-fond. Et pour nous, c'est le plus beau pays du monde.
Pour continuer, donc, il y a Agir pour le vivant. Alors, ça, c'est le thème qui sera abordé lors de ces rencontres. Comment se décide justement ce titre et ces choix de programmation ?
Alors, on essaye de faire la programmation à plusieurs. On s'y prend très tôt dans l'année. Au mois de mars, on fait des réunions pour que chacun puisse présenter des thèmes, des activités qu'il a envie de faire pendant les rencontres de l'année d'après, puisque les rencontres se font toujours fin janvier. Et puis, on pose souvent la question à la fin des réunions. Bon, alors, si on voulait un titre parmi tous les intervenants qu'on a choisis, quel serait-il ? Et puis, on en a 10 qui arrivent. Et puis, dans les 10, on fait un petit vote pour savoir lequel va venir. Et on essaye de regarder les autres titres, comme on a 22 titres. Mmh. Et du coup, on essaye de ne pas avoir le même. Parce que des fois, on a effectivement les mêmes problématiques environnementales. Et ça ne bouge pas forcément beaucoup. Donc, on a toujours les mêmes mots qui reviennent. Et là, agir pour le vivant, on avait vraiment envie que le vivant soit présent dans nos rencontres. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de sorties. On s'est rendu compte avec le Covid qu'en fait, on pouvait sortir en hiver. Et comme on a fait les rencontres pendant le Covid en année 2021, c'est ça, maintenant, on en fait plein. Et on sait qu'on peut prendre un grand manteau et puis des chaussures et puis on peut aller se balader et aller voir la Drôme, aller faire une marche pour le climat, aller voir les castors. Voilà, en fait, c'est l'idée de pouvoir sortir dans le vivant.
Oui, je voudrais juste ajouter qu'il y a une affiche qui circule maintenant, l'affiche des 22e rencontres de Die. Cette affiche, je pense qu'elle elle doit nous parler tous. Tous les auditeurs peuvent l'ont certainement vue ici ou là. C'est cette affiche d'abord d'herbe et puis d'arbres. Et puis peut-être une colline, on va dire une pente, on ne sait pas. Peut-être que derrière, comme aujourd'hui, le Glandas est un peu couvert. Mais la montagne n'est pas loin. Mais la mer non plus, d'ailleurs, parce que quand on parle d'huîtres, on parle aussi de la mer. Et finalement, on n'est pas si loin non plus de tout cela. Et puis, il y a ce pas. Il y a cette enjambée, je dirais. C'est une enjambée, c'est aussi peut-être un pas de côté. C'est peut-être aussi l'idée qu'on peut réfléchir ensemble, essayer de penser un peu à côté de nos idées toutes faites ou de nos conceptions déjà arrêtées, de concepts qui sont peut-être trop bloqués, trop blottis peut-être. Alors, il se trouve qu'au fond de l'hiver, dans cette vallée de la Drôme, eh bien, on essaye de sortir des sentiers battus. Et ce petit sentier qu'enjambent ces deux jambes, justement, c'est ce pas, cette démarche, ça représente bien, je crois, c'est le symbole de ces 22e rencontres.
Agir pour le vivant avec aussi prendre soin du vivant, ça c'est la question principale de cette année. Qu'est-ce qui vous inspire justement ce titre? Est-ce que vous vous basez aussi sur l'actualité internationale, mondiale et puis plus locale également?
Depuis 2000 ans, je dirais presque, mais surtout depuis l'après-guerre, on a pensé que le vivant, les arbres, la terre, l'eau, étaient à disposition des humains et qu'on pouvait avoir une prédation perpétuelle sur tous ces éléments qui nous entourent et les considérer comme des biens de consommation, voire comme des biens renouvelables éternellement qu'on pourrait utiliser dans tous les sens et n'importe comment. Il s'avère qu'aujourd'hui, on sait que la planète est finie, on sait que des choses ne seront pas renouvelables. On sait que des pollutions sont irréversibles en matière d'océan, voire des fois même en matière du Rhône. Et on sait aussi que puiser immanquablement sur la biodiversité, comme ça se fait depuis toujours en Afrique, en Asie, voire en Amérique du Sud, c'est arrivé à des disparitions irréversibles d'animaux, d'arbres, de forêts. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les 3 secondes, il y a à peu près la surface d'un terrain de foot qui disparaît en Amazonie. Donc, on va vers une catastrophe au niveau écologique, mais on va une catastrophe sur les autres qu'humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des rivières qui sont asséchées. On en reparlera au mois de juillet et août prochain au niveau de la Drôme. Il y a des forêts qui disparaissent. Il y a des déserts qui se créent. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un moment quasiment de bascule anthropologique, où on est en train de prendre conscience que nous ne survivrons pas à la disparition du vivant qui nous entoure. Le vivant, ce sont les forêts, ce sont les animaux, ce sont les végétaux, ce sont les vers de terre, c'est la terre simple, c'est la rivière. Et si aujourd'hui, on ne met pas sur un pied d'égalité, en dialogue avec nous et en respect et en protection les non-vivants, les non-humains, je veux dire, on va à la catastrophe. Donc, on a voulu insister, il y a 4 ou 5 moments, sur l'eau, sur la forêt, sur la terre, où on met en valeur les non-humains, parce que c'est ce dialogue que demain, nous allons devoir obligatoirement entreprendre au niveau du territoire. Peut-être que la Drôme et peut-être que le Diwa n'est pas en marche arrière là-dessus, puisqu'on a déjà énormément travaillé sur ce sujet des non-humains.
5 journées donc dédiées à l'écologie, avec des débats, des conférences, des expositions, des animations, des ateliers, une librairie et le cinéma également aura sa place avec quelques coprojections. Et donc ça commence le jeudi 25 et pour cela il y a une prise de rendez-vous avec ce World Café pour venir présenter les projets. Je recevrai justement une personne vendredi chez nous pour présenter cette journée. Alors, Comment s'articule d'abord, toutes les propositions sont situées sur un même lieu, la salle polyvalente de Die, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres endroits qui sont sollicités?
Alors, comme c'est marqué un peu sur le programme, et on a essayé d'être clair sur le plan aussi, en fait, on a plusieurs lieux. On a la salle Séverine Baumier, qui est la nouvelle salle municipale qui est ouverte à toutes les associations. On a également la salle communautaire, donc, qui est à l'espace social, donc place de l'Évêché. Et on a aussi la salle de l'avant-poste, qui est le nouveau espace de coworking qui est juste avant la poste, d'où le nom. Et du coup, c'est toujours au centre de Die, donc on peut tout faire à pied. L'idée, c'est que ce soit réparti un peu partout. Par contre, le point central et névralgique, c'est toujours la salle polyvalente où tout le monde peut venir déjeuner. Même si on ne vient pas aux conférences, on peut quand même venir prendre un repas bio de bonne qualité et pas trop cher. Il y aura également le mercredi, je tiens à le souligner, on a fait une place pour les cantines, les popotes, à 12h15. Donc venez manger, si vous voulez, à la salle polyvalente, mercredi 24, pour manger avec ce fabuleux projet que sont les popotes. Et puis, il y a également, à la salle polyvalente, il y aura le bal folk, comme d'habitude, le samedi soir. Et puis, comme on fait depuis très longtemps, on fait une soupe d'inauguration au marché le samedi matin. Voilà, pour un moment convivial. Donc, on sort un peu des fois des murs de nos salles et on sort un peu dehors.
Alors, cette journée du jeudi, il y a des sorties qui seront proposées d'emblée. On va pas détailler tout le programme, hein, il est imprimé et disponible aussi sur le site de Écologie au quotidien. Quels sont pour vous les points forts auxquels vous voudriez vous exprimer?
Moi, je voudrais juste dire que pour moi, le point fort le plus important des rencontres, bon, qui ont lieu cette année, donc sur 4 jours, on l'a bien compris, du 25 au 28, du jeudi au dimanche, mais avec un petit extra le mercredi aussi. Mais en fait, de tout l'événement, ce qui compte, c'est en fait une sorte d'esprit de citoyenneté qui s'exprime dans toute la ville. Et au-delà, il y a des sorties, ça va se répandre dans la vallée. Cette citoyenneté, moi, je l'ai vue à l'œuvre l'année dernière, c'est citoyenneté, convivialité, rencontre, échange. C'est ça, en fait. C'est quand même étonnant, Claude le dit quelquefois, qu'au fin fond d'une vallée comme la nôtre, ce Diwa, il y ait en fin du mois de janvier, c'est vraiment pas une période particulièrement très séduisante, hein, et il fait froid, voilà. Et ben, il y a pourtant, l'année dernière, plus de 10 000 personnes, visiteurs, qui sont venus. Il y a des bénévoles qui arrivent, je dirais, pas de la France entière, de l'Europe, hein, d'Europe, de Belgique, de Suisse, et d'ailleurs, pour participer à ce moment convivial d'échange, de rencontre, d'ouverture, de découverte.
Il y a donc ces propositions tout au long de la journée, avec des ateliers, par exemple le premier étant changer de regard. Ça, c'est en quelque sorte une introduction à ce qu'il y aura à découvrir pendant ces 4 ou 5 journées.
Alors, changer de regard, ça pourrait être une injonction. En réalité, c'est une sensibilité éminemment importante quand on veut changer la société ou quand on s'implique dans la société. Aujourd'hui, on pourrait le voir à moult endroits, le sentiment qui est le plus répandu, c'est une sorte de fatalisme, c'est une sorte de désespoir, c'est même un peu ce qui fait voter à certains endroits, et je prends bien exemple ailleurs pour pas avec ces personnes, ce qui fait voter Trump dans certains territoires. Et donc, je pense que sur ce territoire du Diwa, de la Biovallée et de la Drôme, ce changer de regard, ce pas de côté, comme disait Michel, c'est aussi d'avoir une vision optimiste de l'avenir. Alors, pas une vision béate, mais une vision où on prend notre avenir en main. On parle de l'eau, on parle de la forêt, on parle des transports, on parle de l'énergie dans ces rencontres. Et sur tous ces sujets, les habitantes et les habitants sont amenés à prendre en main leur avenir. Et dans une vision constructive, dans une vision positive, dans une vision où les citoyens et les citoyennes prennent vraiment leur avenir en main. Donc c'est ça, changer de regard aussi, parce qu'on peut regarder tous les deux la même chose. Je prendrai un exemple qui est historique. Vous regardez une vache dans un champ. Alors, si vous êtes boucher, vous la voyez d'une certaine manière. Si vous êtes peintre, vous la voyez d'une autre manière. Et si vous êtes éleveur, vous la voyez d'une troisième dimension. Donc, en réalité, on peut changer notre imaginaire, on peut changer notre regard sur un territoire qui, avouons-le quand même, est magnifique. Magnifique par sa rivière, magnifique par sa montagne, magnifique par les femmes et les hommes qui y travaillent depuis des années. Donc, on a un territoire béni.
Vous-même, Claude, êtes journaliste. Vous avez pu aussi documenter les Diwa sur vos recherches, vos enquêtes. Est-ce que vous avez constaté et vous confirmez donc cette réelle, adaptation à l'écologie, à aller aussi au plus naturel dans le Diwa?
Je crois que quand on a une bonne connaissance du territoire, on peut le voir transpirer à travers la programmation, mais quand on connaît le nombre d'initiatives qui sont portées par des Diwas et des Diwas au niveau de la transition énergétique, de la transition culturelle, on a un pays, quand je disais le mot béni, c'est le mot qui convient. Aujourd'hui, je ne vais pas les lister, mais bon, nous, on travaille à l'avant-poste. Déjà, c'est une initiative formidable avec la structure Diwat, qui est aussi une association qui travaille sur l'ensemble du territoire. On a un rendez-vous sur le tourisme. On travaille avec le Martouret et avec Fred Sauvage du monastère de Sainte-Croix sur un nouveau tourisme, de nouvel accueil de classe verte, nouvel accueil culturel, de nouveaux accueils apprenants, de nouveaux accueils de personnes en difficulté. Je trouve que c'est assez innovant. Et je pense que je pourrais lister une bonne centaine d'associations de la Biovallée, de Beaurières à Livron, qui font ce job de cette transition, ou plutôt de cette bifurcation, ou de cette métamorphose d'un territoire. Et je pense qu'on est bien sur une métamorphose, parce qu'on est passé du stade militant au stade de mutant. Tous ces gens-là sont déjà dans une autre dimension sociétale, où ils prennent énormément de plaisir à construire le monde de demain et aussi à travailler avec les autres. Je le vois à l'avant-poste, c'est un vrai plaisir de travailler à l'avant-poste.
Alors, il y a l'écologie, certes, il y a aussi la santé. Ça, c'est abordé notamment avec Alzheimer. C'est un problème de société. Pourquoi, justement, cet intérêt pour ces aspects de santé au sein d'écologie au quotidien, pour vous, c'est d'une importance
essentiel. C'est important. C'est l'angle, effectivement, choisi par l'association, qui ne se préoccupe pas que de l'extérieur, qui ne se préoccupe pas que de la nature, de ce qu'on peut observer, mais qui se préoccupe aussi de notre intérieur, de notre monde intérieur. Il y a une implication de chacun. Et je pense aux auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent peut-être se demander, mais d'où débarque-t-on là, qui sont ces mutants qui viennent d'un autre monde? Non, ce sont des citoyens comme les autres, mais qui veulent effectivement prendre en main, en quelque sorte, leur destin. Alors, c'est peut-être un peu grandiloquent, c'est certainement beaucoup trop ambitieux, mais en même temps, on n'a pas le choix, il faut y aller. Et agir pour le vivant, c'est ça. Donc, effectivement, la santé en fait partie, comme l'alimentation, bien sûr. Et en domaine de la santé, ben, à l'entrée des rencontres, il y aura un espace santé où on pourra recevoir des soins par des praticiens qui ont envie de le faire. Et puis, il y a aussi des rendez-vous pour s'occuper de l'alimentation, de la santé.
Justement, par exemple, le dimanche 28 janvier, on a Vivre de vieux en mieux, avec Anne Portier à 17h. Et puis, il y a à 14h, le même jour, Votre immunité, son fonctionnement, avec Alain Gorius. Et puis, il y aura aussi Soigner le corps territoire. Donc, on peut dire Soigner la terre aussi. Et également, on a des marches qui sont quelque part prendre soin aussi du corps. Et on aura effectivement, par rapport à l'alimentation, un rendez-vous le vendredi 26. C'est une alimentation saine, locale pour tous. Donc pour nous, il y a bien saine et locale dans le titre. Et je tiens à préciser, jeudi 25 janvier, on a une petite modification de programme. Donc, pour ceux qui nous écoutent, normalement, François Sarano devait venir le jeudi 25 à 17h, mais il sera reporté le vendredi à 14h. Voilà, on a inversé les deux parce que François Sarano ne pouvait pas venir le jeudi.
Je pense que pour les auditeurs, il faut se reporter à notre programme, au site internet écologieaucotidien.org, et puis regarder dans le détail. Il y a tellement de choses, il y a tellement de lieux, il y a tellement de rendez-vous que vraiment, comme l'année dernière, moi j'étais complètement sidéré de la richesse et de la variété, de la diversité. On parle surtout de ces points de vue. Par exemple, il y a une conférence sur l'immunité. Qu'on peut aborder. Bon, voilà. On est à 10 et puis on parle d'immunité. C'est un chercheur qui vient parler d'immunité. Bon, c'est des sujets qui nous préoccupent tous, finalement, dans notre quotidien. C'est essentiel. Et voilà, les rencontres de 10 tentent de faire un certain tour de toutes ces questions. Et questionner le vivant, ben, c'est questionner tout le monde autour de nous.
Il y a donc cet aspect de la santé avec ces conférences aussi également, et puis des ateliers ou de prodigation de soins. Et puis aussi, il y a la transmission d'un savoir. Ça aussi, c'est un domaine où on pourra découvrir peut-être des conférences de personnes qui ont une certaine science de l'écologie et peut-être d'aborder plus en profondeur certains sujets.
Depuis si longtemps, je pense qu'un des ADN d'Écologie au quotidien, c'est d'arriver à marier des intervenants qui ont une renommée, ou des scientifiques qui ont une renommée mondiale, ou des sociologues qui ont une renommée mondiale ou européenne, avec des acteurs du territoire, avec des acteurs du terrain. Par exemple, on parle sur la décroissance avec Timothée Parik, qui a été enseignant à Oslo jusqu'à ce jour, et qui vient pour nous parler d'une autre façon de voir l'économie. Il est hyper intéressant de voir quels sont les acteurs qui imaginent une autre économie sur le territoire. Donc cet aller-retour entre des acteurs, des praticiens, au sens de gens qui mettent en pratique ces bifurcations et ces mutations, ces métamorphoses dont je parlais tout à l'heure, avec des gens qui les pensent. Je pense à G. Bartoli, par exemple, qui travaille sur les territoires avec Annie Gosselin, des gens qui travaillent sur d'autres qui sont référents. Je pense à Camille Etienne, qui vient de sortir un livre et qui réfléchit aussi sur l'implication de la jeunesse dans les transitions et les mutations qui s'annoncent. C'est de mettre en lien ces deux. Les deux s'enrichissent. Les scientifiques, les chercheurs, les urbanistes, les sociologues viennent voir sur le terrain ce qui se passe. Des acteurs qui changent l'agriculture, qui changent l'urbanisme, qui changent la mobilité, qui changent la médecine, qui changent l'éducation. Et nous-mêmes, sur ce territoire, on se nourrit de ces chercheurs et de ces scientifiques qui viennent poser un œil bienveillant sur ces mutations. Et donc, je trouve que c'est ça qui fait la richesse de ces rencontres. D'ailleurs, les rencontres s'appellent bien des rencontres. Elles ne s'appellent pas un festival, c'est les rencontres. Philippe Mérieux, le grand pédago, disait « Mais vous ne devriez pas appeler ça les rencontres de Dit ou les rencontres de l'écologie, vous devriez appeler ça les rencontres de l'émancipation. » Parce que vous faites un travail de sensibilisation et qui porterait, oui, il disait aussi, ou bien les rencontres de la fraternité. Et je pense que c'est un peu ça ce qui se passe sur ce territoire. Et pendant ces rencontres, on insuffle, on instille, je pense, cette idée que beaucoup d'idées nous sont apportées par l'extérieur et que nous nourrissons aussi les chercheurs.
Est-ce que dans l'équipe ou même dans l'organisation globale d'Écologie au quotidien, il y a parfois des contradictions au sein et qui sont peut-être matière à débat? Et est-ce que justement ces débats, parfois, on peut les retrouver aussi sur ces journées?
Bah, évidemment que la discussion bat son plein dans les conseils d'administration. On discute de sujets. Ça va jusqu'à, l'échange d'arguments, comme dans toute... on n'est pas à l'abri de se confronter les uns les autres. Mais je crois, par contre, qu'il y a un point qui est très précieux dont il arrive à Claude de parler. On a la chance de vivre quand même dans un territoire pacifié, qui est le Diois. Alors, évidemment, il y a des petits conflits. Tout le monde le vit, les auditeurs aussi. On vit parfois, même dans le Diwa, quelques énervements, voire même pire. Mais ce qui est important, c'est la paix. La paix qui est dans tout le paysage, qui nous inspire. La montagne nous inspire beaucoup. C'est une montagne de paix. Et donc, on retrouve aussi cette intention de pacifier dans les rencontres. Ça fait aussi partie de l'ADN d'écologie au quotidien, je crois, que de chercher cet apaisement. Voilà. La nature nous apaise. Et agir pour le vivant nous aide beaucoup aussi à apprécier un calme. Bah d'ailleurs, ceux qui viennent de l'extérieur, ceux qui arrivent dans le Diwa pour profiter de cette atmosphère, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici ? On va dire la tranquillité. Oui, mais une tranquillité nourrie d'arguments, nourrie de discussions, nourrie d'approches nouvelles aussi. C'est pas contradictoire, mais cette tranquillité, elle est aussi un fil qui est essentiel, hein, qu'on essaye de tenir au sein d'écologie au quotidien, oui.
C'était sans vouloir aller jusqu'au terme de conflit, mais je voulais savoir s'il y avait des idées, des méthodes qui pouvaient être expérimentées ou qui pouvaient être, comment dire, contrecarrées. Enfin, c'est ça les sujets à débat que je voulais savoir de manière à enrichir peut-être aussi les outils.
Tu sais, quand on a démarré les rencontres en 2000, d'imaginer, de rêver les rencontres en 2000, on s'était inspiré d'un bouquin de Félix Guattari qui s'appelle « Les trois écologies », que je conseille à tout le monde, même s'il a 50 ans, ce livre. C'était d'imaginer que l'écologie, c'est bien sûr la protection des animaux, la protection de la forêt, la protection de la rivière, ça c'est l'écologie environnementale, mais ça doit nourrir une écologie sociale ou politique, qui sont la démocratie participative, les pistes cyclables, les énergies renouvelables. Et puis, lui, dans son bouquin, il dit « Mais il y a une troisième écologie que, politiquement, on n'a jamais pu porter. C'est cette écologie personnelle, cette écologie d'une écoute attentive, d'une parole juste, ce qui, aujourd'hui, est quand même quasiment un exploit, surtout en matière politique, d'être en capacité aussi de faire du yoga ou de la méditation. » Alors ça, bien sûr, au niveau politique, ça passait très, très mal. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quand vous allez faire une ZAD dans la forêt de Chambaran, eh ben, si des gens font de la méditation ou du yoga, ça nourrit les luttes. Et en réalité, ça nourrit la paix dont parlait Michel. Et en réalité, on ne peut pas, comme on l'a fait pendant 70 ans, hein, dans les partis politiques où on a pu militer, par exemple, je pense, sans citer aucun parti pour faire de peine à personne, mais après 50 ans dans certains partis, jusqu'à la chute du mur de Berlin, on va le dire comme ça, beaucoup de militants se sont fait un ulcère ou se sont sortis de là déprimés en disant « bon, on n'est pas arrivé ». Et en réalité, on implique aujourd'hui dans les luttes notre corps, notre esprit, notre cœur. Et aujourd'hui, on est sur un autre paradigme, on est sur une autre vision des luttes. On est absolument sur cette paix. Je dis souvent aussi, comment on peut aller prêcher la paix en Palestine ou à Gaza si nous, ici, sur le territoire, on n'est pas dans cette capacité de faire la paix avec nos semblables. L'inverse est dérisoire.
Il y aura également des expositions. Alors, des expositions, on peut peut-être en parler de quelques-unes. Sur quels thèmes sont-elles abordées ?
Alors, les expositions, on a une commission qui s'occupe des expositions. On travaille avec la Fédération des œuvres laïques et avec des artistes. Pour l'instant, c'est la commission qui maîtrise. On ne va pas en dire plus.
Il n'y a pas vraiment.
Voilà. Et puis, pour peut-être, comment dire, alléger ces rencontres, il y a des animations, j'imagine, plus ou moins ludiques aussi, peut-être.
Alors, pour que tout le monde puisse venir faire son panier un petit peu dans ces rencontres, il y a une multitude de façons de sensibiliser les gens. Alors, il y a des gens qui adorent voir des films. On aura plusieurs films. Je crois qu'il y a 8 films dans les rencontres, plus 2 films au Pestel. Il y a des gens qui veulent animer des débats ou participer à des débats, voire même à des dialogues pointus ou des dialogues en se fritant, parce qu'on peut se friter dans les rencontres de l'écologie. Il y a des gens qui veulent faire des balades en montagne ou au bord de la rivière. Il y a des gens qui veulent faire des ateliers participatifs où ils imaginent, ils rêvent demain. Il y a toutes sortes de choses. En réalité, on essaye de proposer un projet où tout le monde peut venir faire son panier. C'est important. C'est pour ça qu'il y a aussi la diversité des sujets sur la santé, sur... Et donc, en définitive, il y en a pour tout le monde. on vient, moi-même qui travaille avec toute l'équipe sur la programmation, j'apprends plein de trucs. On a plein de sujets où on a tous à être nourris de ces nouvelles idées, de ces nouvelles approches, ces nouvelles sensibilités. Voilà.
Et puis, il y a une nouvelle forme aussi de conférence. La conférence uniquement avec un intervenant et tout le monde est assis. De plus en plus, on se retrouve avec des débats mouvants, des conférences gesticulées, des ateliers assez ludiques. Il y a un atelier ludique, justement, le dimanche 28 à 20h30. Et puis, on a toujours des moments conviviaux, parce qu'on aime bien ça. Et d'ailleurs, la soirée conviviale où tout le monde est le bienvenu est gratuite. C'est à 20h30, le dimanche 28, on aura de la musique et un DJ que vous connaissez bien, qui est Louis Bertrand, qui viendra animer une soirée où on pourra venir danser pour fêter la fin de ces rencontres.
Et puis le traditionnel bal folk ?
Alors le bal folk, évidemment, danser, c'est quand même agir pour le vivant. Ça revient au même. On est aussi en... Danser, c'est pas simplement s'amuser, c'est écouter. C'est aussi mouvoir, se mouvoir, bouger dans l'espace. Depuis planter des arbres ou hameaux de plat, puisqu'il y a un rendez-vous le dimanche matin, la plantation d'arbres, c'est essentiel pour l'association. Mais danser tout autant, voilà, ce sont autant d'activités, soit collectives, individuelles. On mélange tout et pourquoi pas, c'est un cocktail.
La librairie aussi, qui est vouée, comme chaque année, à proposer les ouvrages qui concernent tous les aspects de l'écologie, mais même au-delà.
Ah oui, on a repris le travail avec la librairie Mosaïque, avec laquelle on travaillait il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a une belle dynamique avec les nouveaux acteurs qui tiennent la librairie, des jeunes. Donc, on se fait un plaisir d'avoir un beau panel de bouquins. On verra cette année. L'année passée, il y avait 700 livres. L'année d'avant, il y avait 1500 ouvrages différents, auteurs différents. C'est un moment aussi où on vient faire le plein d'idées, d'échanges autour des livres. C'est un moment précieux aussi pour nous. Je parlais tout à l'heure du livre de Félix Guattari, mais aussi, moi, j'ai appris beaucoup en lisant. Alors, je suis un grand lecteur. Mais j'ai appris beaucoup, par exemple, avec un auteur qui s'appelle Nicanor Perlas. Nicanor Perlas, c'est un syndicaliste philippin qui avait réuni autour du changement de société, parce que les Philippines, c'était la dictature Marcos, ceux qui ont mémoire. Et donc, il avait dit, nous, au mouvement syndical, dans le mouvement syndical, pour changer la société, pour faire tomber la dictature, disons-le franchement, on avait réussi à allier les entreprises vertueuses, le mouvement social, le mouvement associatif, ce qu'on appelle nous la société civile, et les élus non corrompus. Et quand on est arrivé à mettre ça en branle, c'est en dynamique, en synergie, on a fait basculer la dictature Marcos. Et ce livre-là, par exemple, moi, il m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, on avait invité Nicanor Perlas à l'époque, qui faisait une tournée en France. Et ce bouquin m'a beaucoup inspiré parce que il nous a expliqué dans les pratiques que si on mettait ça en synergie, on arrivait à changer la société. Et c'est ce qu'on fait sur le Biovallée. On a un collectif, et vous en parlerez avec Noémie Gaillard demain ou après-demain. Quand on met en collectif et en coopération les élus, les entreprises et le monde associatif, on arrive à... Dans un premier temps, on est très méfiant. Le monde associatif et le monde militant est très méfiant. Mais au bout d'un moment, il y a une connaissance des uns et des autres. Finalement, chez tout le monde, il y a une part d'humanité qui ne veut que fleurir. Et à un moment, on est en reconnaissance plus qu'en connaissance. Et quand on est en reconnaissance les uns des autres, on peut travailler en confiance et on peut transformer un territoire. Et moi, je le dis franchement, il y a 40 ans, je me battais avec des entreprises du BTP pour pas qu'elles bétonnent et surtout qu'elles curent la rivière jusqu'à l'os. Et puis aujourd'hui, on est en coopération pour voir comment elles vont recycler tous les matériaux du Diois, du béton, en passant par les charpentes, en passant par les destructions de ponts ou de routes qui sont en train de recycler. Donc, arriver à une société de lutte de classe, à une société de coopération de toutes et de tous, je trouve que c'est un beau challenge.
Deux grands sujets d'intérêt pour le canton du Diois, c'est la problématique de l'eau. Toutes les organisations, collectivités locales s'y penchent. Vous l'abordez certainement aussi dans vos conférences. Il y a pas mal de sujets qui traitent de l'eau. Et puis aussi le plan alimentaire de territoire qui permet justement de réfléchir aussi à la culture nourricière.
Oui, il y aura une conférence que moi j'attends aussi sur l'eau avec des interlocuteurs. Bon, peut-on faire face à l'état d'urgence ? C'est sûr que c'est vendredi à 14h. L'eau, que doit-on ? Peut-on faire face à l'état d'urgence ? C'est à 14h, donc le vendredi. Et c'est vrai qu'avec Anne Lestrat est une experte en la matière. Elle a remunicipalisé l'eau de Paris, par exemple. Et c'est un mouvement qui se développe. On est aussi dans le DIWA, pas étranger, pas aveugle à ce qui se passe dans le restant du territoire. Le problème de l'eau, c'est de la propriété de l'eau ou de l'eau considérée comme un bien commun, ce qui avance aussi de plus en plus dans le monde. Donc c'est une problématique qui, pour nous, bassin versant, est une priorité, c'est sûr. Comme l'alimentation, mais au sens aussi où on s'alimente local. Et à ce point de vue-là, il faut aussi rappeler quand même que la cuisine des rencontres est un point central, la cuisine et les repas. On sert des repas qui sont très bons avec des produits locaux, des maraîchers ou des producteurs locaux. C'est essentiel. Et c'est une cuisine de bénévoles qui travaille pendant toute la durée des rencontres.
Et au niveau des rendez-vous sur l'eau, on a un atelier donc samedi, l'eau raisonnée dans l'habitation, qui sera fait par le SMRD. Syndicat mixte, pardon, des rivières drômoises. Et nous avons également cultivé l'eau et s'allier au castor avec Hervé Covez, qui est un ingénieur agronome absolument passionnant, qui va nous parler des castors, mais également de toute la terre. En fait, c'est vraiment un philosophe de la nature. Et au niveau de l'eau,
il y a l'eau raisonnée dans l'habitation samedi. Ah oui, pardon.
Non, c'est pas grave.
Qui est aussi.
On va parler de l'océan aussi.
Ben oui.
L'océan qui est, même si on est loin de la mer, il y a donc François Serrano qui va nous parler donc du film qu'il a réalisé, contribué à, avec l'océan, et qui va nous parler aussi de toute cette problématique autour des mers et des océans avec l'eau.
Une dernière question dans le cadre régional. Quel est votre constat sur justement la politique écologique régionale? Est-ce que vous en avez quelques mots à dire?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, on s'est forgé un avis, une opinion sur ce territoire, mais comme sur d'autres territoires. C'est pour ça que je pourrais parler plus peut-être de Biovallée. C'est que les mutations écologiques, dans tous les domaines, sont l'affaire des habitantes et des habitants et sont l'affaire des territoires. On peut rêver, on peut imaginer, on peut même essayer de comprendre qu'un jour, les changements viendront de la région, de l'État, voire de l'Europe, voire des COP28 ou d'autres. On s'aperçoit que dans toutes ces négociations qui prennent extrêmement de temps face à l'urgence climatique, on s'aperçoit aussi que la redescente, que ce soit des lois, que ce soit des injonctions, est souvent contrecarrée par une multitude d'entreprises et de lobbies. J'ai pas besoin d'expliquer la COP28. On en déduit que c'est nous qui allons faire notre avenir sur ce territoire et que c'est nous qui allons enclencher et qui enclenchons avec une multitude d'associations, d'élus et d'entreprises les mutations ou les transformations dont il s'agit de faire bénéficier nos enfants et nos petits-enfants. Donc on est convaincu que la politique, c'est une affaire de tous les jours et une affaire de citoyennes et de citoyens. Alors là, je vais plutôt parler à mon nom, mais moi, j'attends très, très peu de la région, très, très peu de l'État et très, très peu des COP28. Alors aujourd'hui, peut-être que l'Europe, et encore, on voit qu'elle met de l'eau dans son vin, si je puis dire, sur le glyphosate ou sur le deal vert. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi, et les élections européennes qui arrivent, si une majorité de droite ou d'extrême droite emportait les élections, j'ai l'impression qu'on en aura encore pour quelques années dans les transitions. Donc je pense que c'est sur le territoire que vont se décider des choses intéressantes, des transitions intéressantes, des mutations intéressantes. Et j'invite toutes les habitantes et les habitants à penser que la démocratie, La démocratie, pour changer les choses sur les territoires, elle passe par eux au quotidien. Ce n'est pas une affaire d'espérer que les élections ou que les grands corps d'État vont changer les choses. C'est sur le terrain qu'on change les choses. D'où le job.
Voilà. Nous approchons de la fin de l'émission. On peut parler aussi de ce lieu, donc la salle polyvalente, avec son point d'information, où seront peut-être aussi communiqués les changements de programme, peut-être aussi.
Oui, alors on parle toujours du site. On peut dire aussi qu'on a toujours besoin d'hébergement, mais il y a beaucoup de citoyens qui s'investissent pour cela et accueillir des personnes qui viennent de l'extérieur chez soi. C'est aussi le lieu de discussion. On n'imagine pas tout ce que ces rencontres peuvent produire comme autres rencontres localement entre les individus. Ça, c'est aussi important. On peut parler des crêpes de l'après-midi. À tout moment, il y aura des crêpes à la salle polyvalente. On peut manger une petite crêpe. On peut venir manger à petit prix, manger local. On peut boire un coup aussi. On peut échanger. On peut aller faire une balade, sortir. Enfin, il y a toutes sortes d'occasions, c'est sûr, pour s'enrichir dans tous les sens du terme.
Il y aura également un espace de gratuité qui est marqué dans le programme. Mais, donc n'hésitez pas à amener vos habits que vous ne voulez plus, des poussettes, pas trop encombrants quand même, mais des livres. Voilà, c'est l'occasion d'échanger, de trouver des petites perles. Parce que les habits sont trop petits, parce que les enfants n'ont plus envie de jouer avec ces jouets. Et c'est vrai que c'est une occasion d'échanger.
Voilà un programme en tout cas très dense. Il y a combien de rendez-vous donnés pendant ces 5 journées là? Vous avez compté?
Je crois qu'il y a une 60aine de rendez-vous et plus d'une 100aine d'invités. Alors elles sont réduites, c'est l'occasion d'en parler, elles sont réduites exceptionnellement cette année parce qu'on est en coopération avec d'autres structures pour essayer de pérenniser ces rencontres. Et donc je pense... Je ne sais pas qui maîtrisera les rencontres 2025, mais peut-être qu'elles retrouveront leur 10 jours et avec d'autres acteurs, d'autres thèmes, d'autres co-constructeurs du projet, d'autres coopérations. C'est pour ça que cette année, on a pris le temps de respirer, on a pris le temps de faire ce qu'on dit, c'est-à-dire cette transition qu'on souhaite voir dans la société ou ces mutations qu'on souhaite voir dans la société. Nous, on se les impose. Et on a pris le temps de dire ben, comment on va coopérer avec les autres, comment on va co-construire quelque chose de pérenne, comment on va être capacité, là je parle que pour moi, comment on va un peu lâcher l'affaire, lâcher prise sur ce festival, et comment du coup il va rebondir sur les autres années et de belles façons.
Écologie au quotidien, c'est toute l'année aussi, hein, ce n'est pas juste 5 jours. Et donc, divers rendez-vous sont donnés, notamment avec celui des rencontres pour l'hiver. Au printemps aussi, il y aura 3 rendez-vous à découvrir. Et puis l'été, l'automne. Juste une question qui m'interroge, est-ce que vous avez réfléchi à une possibilité d'organiser un certain type de rencontre aussi à l'adresse des touristes pour un aspect peut-être pédagogique?
Alors, ce serait une facilité. On a eu fait des choses en juillet-août et c'est vrai qu'on séduit les touristes, particulièrement les films qui sont en rapport avec la nature et avec la flore et la faune. Les touristes adorent. On a fait plusieurs quand il y avait encore, avant la salle Baumier, on faisait des à l'époque c'était des diapositives pour les estivants et ça marche très très bien. Le sujet des rencontres de Die et de la Biovallée, c'est pas de séduire un maximum d'estivants ou c'est pas de séduire un maximum de personnes pour venir consommer les rencontres. C'est d'impliquer les habitantes et les habitantes à la mutation de leur territoire, à la vision de ce pays que moi je trouve qui est de qualité, sur lequel on a beaucoup de travail à faire sur la mobilité, sur les énergies, sur la souveraineté alimentaire. Et donc, le job, c'est pas de séduire des consommateurs, c'est d'impliquer les hommes et les femmes de ce pays pour qu'ils soient conscients et voire consciencieux des enjeux, qu'ils s'impliquent dans ces transitions et ces mutations et ces métamorphoses, et qu'à la fin, ce soit un territoire où il fait bon vivre ensemble, où il fait bien devenir ensemble. C'est ça. Donc, on n'a pas, on aurait pu faire ça le 15 août, hein, on aurait sûrement eu le double d'entrée. C'est pas notre truc. On veut des gens conscients et consciencieux qui viennent à la fois réfléchir, travailler, rêver, imaginer, aussi, comme le disait Michel, danser, boire et se frotter, même en désaccord. Tu disais en désaccord, où on parlait des désaccords. On a des grosses discussions sur le wokisme, par exemple. On pourrait faire une émission rien que là-dessus. On a des désaccords sur les luttes. Est-ce que les luttes doivent être non-violentes? Est-ce que les luttes aujourd'hui, puisqu'on entend des fois que les gens qui sont violents, est-ce que les luttes doivent être violentes pour être entendues? On peut avoir des désaccords sur le foncier. Est-ce que le foncier, on fait comme Terre de Liens et on travaille à l'installation de jeunes agriculteurs, ou bien on fait des ZAD? Il y a des tas de sujets sur lesquels il y a beaucoup de débats à Écologie au quotidien et dans d'autres structures. Donc on n'a pas fini les 22e rencontres. J'imagine qu'il y en aura encore 20 parce que les sujets, on est loin de les avoir épuisés.
Et sur toute l'année, en fait, on organise... tous les mois, le premier vendredi du mois, un ciné-débat, donc à l'espace social, à 20h. Et tous les mois, on organise un café mortel, voilà, qui est soit sous forme de café mortel, soit sous forme de discussion. Et puis, on a toujours quelques animations en plus, quelques ateliers, quelques sorties. En février, on va faire des plantations d'arbres. Donc, pour ceux qui souhaitent venir nous aider, n'hésitez pas à nous envoyer un email pour devenir bénévole et planter des arbres, parce que c'est notre deuxième grand axe, c'est-à-dire planter des arbres pour que cette planète soit plus vivable. Et on a une newsletter qui est diffusée une fois par mois, donc ce n'est pas trop de mails. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet et vous recevrez toutes les infos sur nos événements.
Et pour conclure, est-ce que le simple fait de se retrouver ou d'être dans le Diwa permet de changer le regard?
Moi, je pense que... Vous savez, j'étais à Lyon avec des élus de l'agglomération de Lyon. Ils me disaient, mais vous arrêtez dans votre territoire là-bas. La personne qui m'en parlait, je connais 25 familles qui sont venues s'installer dans le Diwa et qui sont parties de Lyon. Alors, je pense que ce n'est pas que à cause de l'écologie au quotidien et de ces rencontres. Bien que je connaisse énormément de gens qui se sont installés sur ce territoire après les rencontres de l'écologie et qui ont monté des entreprises, des projets, des associations, voire qui se sont même impliqués dans des conseils municipaux. Donc, il y a un côté attrayant et séduisant du territoire. Après, je pense qu'aussi, c'est un territoire... Il y a 40 ans, on disait « Oh, les arrière-pays sont fichus ». Les arrière-pays ne sont pas intéressants et c'était la désertification. Dans ces arrière-pays où on n'a rien détruit, d'une certaine manière, on n'a pas créé des usines polluantes, on n'a pas détruit, on n'a pas des zones à réhabiliter qui ont été industrialisées, on n'est pas sur les banlieues de Rouen ou de Fos-sur-Mer. En réalité, dans les nouvelles visions qu'on peut avoir du monde, ces arrière-pays sont des pays conservés. Et dans les nouvelles valeurs qui s'annoncent au niveau de l'écologie, de la protection de la forêt, de la qualité de l'eau, du bien vivre dans nos territoires, eh bien, ces arrière-pays sont devenus des avant-pays d'avant-garde sur des nouvelles valeurs, sur une nouvelle sensibilité.
L'émission se termine. Et je vous remercie en tout cas Estelle Gilliot, Claude Verret et Michel Léon d'être venus sur Air Diwa pour nous présenter cette 22e édition d'Écologie au quotidien intitulée « Agir pour le vivant ». Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci à Air Diwa.
Merci à la radio. Merci à vos auditeurs et aux auditrices. Et puis on va se revoir peut-être pendant ces rencontres.
On sera présents. Bonne soirée.
À bientôt.
Bienvenue aux rencontres.